Chapitre 15. Nous attendions impatiemment des nouvelles de Paris, car, avant notre retour au Bourdon, le notaire n'avait pas vu M. Kerdulen. Manette craignait des difficultés au dernier moment. Une lettre la rassura. M. Kerdulen acceptait la restitution comme un fait absolument inattendu, mais rationnel. « Chère madame, écrivait-il, vous rappelez-vous que, dans ce joli chemin des mousses, vous me disiez « Il y a un Dieu pour les amoureux ?» Il semble que vous perciez l'avenir, car un événement, sur lequel je ne me croyais plus en droit de compter, modifie subitement ma situation. Un parent, dont je crois avoir parlé devant vous, madame, me restitue 80 000 francs sur le prêt beaucoup plus considérable que mon pauvre père lui avait avancé. » F s'est adressé à un notaire de Paris, M. de R, qui m'a remis l'argent en me demandant, sur la recommandation expresse de mon cousin, de ne jamais tenter d'entrer en relation directe avec le malheureux homme qui nous avait si bien trompés. Ce retour à l'honnêteté m'a fait un plaisir très vif. Je ne connais rien de douloureux comme une déchéance aussi complète. Il a travaillé, a réussi et s'est souvenu, c'est bien. Il ne pourra jamais, m'a dit le notaire, payer sa dette entière, ce qu'il fait déjà beaucoup, et j'aurais désiré lui écrire, mais j'ignore son adresse et suis obligé, d'après son désir formel, de ne pas insister. M. de R s'est, du reste, tenu dans une telle réserve que des doutes me seraient venus sur la provenance de la restitution si j'avais connu à mon père un autre débiteur. Quoi qu'il en soit, me voici en possession d'une dot qui me permet d'affronter encore M. de Falibert. Mais la jugera-t-il suffisante? Puis-je espérer que, pendant ma longue absence, des influences n'auront pas agi contre moi? J'arrive en Anjou et mets à vos pieds, madame, mes respectueux hommages. Kerdulen. Manette triomphait et me disait « Vous voyez, madame, M. Kerdulen n'a aucun doute. C'était inévitable. » Une phrase de sa lettre indique qu'il aurait douté facilement. Le notaire a tout arrangé, je le savais bien. Vous remarquez que M. Kerdulen est heureux de l'honnêteté relative et présumée de son cousin. Il insiste sur ce point et c'est en sa faveur, madame, vous qui l'aimiez si peu. Cette bonne note ne m'étonne pas, Manette. Il m'avait déjà conquise en parlant des questions d'argent. Attendons maintenant ses attaques du côté de la Moussée. Entre nous, je crois la place forte passablement démantelée. L'idée me parut juste, car M. de Falibert était très fatigué de la tristesse qui régnait autour de lui. Sa femme menait l'assaut en faveur de Cécile, et quand M. Mascudier parut en estafette à la Moussée, il fut bien reçu, c'est-à-dire que M. de Falibert, sans briser, consentit à discuter. Quelques jours après, de grand matin, Cécile vint au Bourdon. Son père l'avait longuement sermonné en appuyant sur la médiocrité d'un pareil mariage. Sa fille pouvait contracter une union brillante, elle s'amourachait d'un petit capitaine de Spahis dont il ne disait aucun mal car il le trouvait fort bien, mais qui n'avait que quelques sous et quelques mailles. Elle affectait une tristesse ridicule très fatigante et certainement il n'aurait jamais cédé sans l'heureuse chose arrivée à Kerdulen. Malgré tout, le jeune ménage tirerait le diable par la queue, mais M. de Falibert, grand et généreux, réaliserait des économies pour mettre chaque année le diable et sa queue à la raison. Après ce discours, miel et vinaigre, débité d'un ton bourru, il accorda sa bénédiction à Mademoiselle de Falibert. « Eh bien, Cécile, s'écria ma cousine, très amusée par le récit de son amie, les circonstances ne sont-elles pas plus romanesques que l'esprit prosaïque de Manette est-elle ? Une restitution n'est pas un roman. Pour toi, c'en est un. Comment se douter, Manette, de l'honnêteté soudaine d'un homme qu'on supposait irrémédiablement indélicat ? Pour moi, je n'y aurais jamais songé. Bonne leçon pour apprendre à se défier des jugements absolus. » Elle évitait mon regard dans la crainte d'éclater de rire, et Mademoiselle de Falibert l'en préservant en parlant de son bonheur. Le pays entier fut en l'air par l'annonce d'un mariage que l'on croyait enterré. Manette, au milieu des propos divers qu'elle écoutait imperturbablement, avait repris sa gaieté, ses sorties et son entrain. Je n'y comprends rien, me dit la fade dont le fin sourire indiquait le contraire. La tristesse de cette maison s'est envolée comme par enchantement. Chacun traverse des phases, dis-je négligemment. Vous-mêmes êtes changeant. Vous passez de la laide taciturnité à la plus fine amabilité. Falibert s'est facilement décidé en somme. Il est vrai qu'on parle d'une restitution importante faite à Kerdulen. Mais oui, le capitaine me l'a écrit à moi-même. Quelle heureuse coïncidence! Enfin, c'est très bien. Mademoiselle Ethel, qui devenait morose, jouit beaucoup, il me semble, de ces événements. Sans doute, il s'agit de sa meilleure amie. Les femmes sont meilleures que nous. Je me demande si un homme partagerait, avec cette vivacité, le bonheur d'un ami. Que non pas! L'homme est un franc égoïste. Nous étions de même force, je m'en flatte, et il en fut pour ses frais d'ironie. Mais j'aurais bien voulu plonger dans le fond de son idée. Sur ce, Manette entra rayonnante. La fade lui fit la cour discrète devenue pour lui une habitude. Elle se laissait faire avec un abandon qui ne manquait pas de coquetterie. Madame Degly et moi parlions du bonheur de votre amie. Bonheur n'est pas assez dire. Elle et son fiancé sont dans le ravissement. Le bonheur que l'on croyait perdu est d'autant plus vif. Dans quelle contrée iront-ils promener leur ravissement? Sur les lacs romantiques de l'Écosse. Monsieur Kerdulen a des cousins là-bas. Sa grand-mère était écossaise. Je connais l'Écosse. On conserve de ce pays un souvenir qui dure toute la vie. Qu'est-ce donc, quand on le voit, accompagné du bonheur? Il nous décrivit avec beaucoup d'art un lac sauvage sur lequel, 20 ans plus tôt, il avait vogué en rêvant. Mais, dans ce temps déjà lointain, il ne rêvait pas plus intensément qu'en regardant Manette. « À propos de bonheur, lui dit-elle, votre ami marié l'année dernière, est-il heureux ?»« Très heureux, jeune sceptique. »« Ma question n'a rien de sceptique. » Non, mais le ton. Oui, ce ménage est heureux. La jeune femme, que mon amie enveloppe de tendresse, aime beaucoup son mari, et quand je les ai vus dernièrement, ils partaient joyeusement pour un long voyage. Il s'empressa d'abandonner le sujet. Vous serez demoiselle d'honneur de mademoiselle de Falibert, Miss Manette. Naturellement, et madame Degly me donne une robe comme je n'en ai jamais eue. Elle a raison de vous gâter. Vous serez encore plus charmante, si c'est possible toutefois. Il se mit à la couvrir de fleurs, passant d'une cour voilée à une cour qui ne l'était plus du tout. Pendant que Manette préparait le thé, je priai la fade d'aller m'attendre à proximité du bourdon. Je le rejoignis dans une charrière dont il contemplait avec béatitude les trous et les chardons. La fade, mon ami, lui dis-je aussitôt, vous n'avez pas renoncé un instant à l'espoir d'épouser Manette. Pas un instant. Est-ce raisonnable? Très raisonnable, puisque je crois réussir. Pourquoi traiter les autres de fat? Dis-je ironiquement. Vous croyez réussir, en vérité? En vérité, madame, et je crois mes progrès très grands dans l'esprit, sinon dans le cœur de Manette. Le cœur, répétai-je avec indignation, vous vous permettez de parler avec cette assurance? Je me permets, dit-il avec calme, vous me trouvez audacieux? Ne vous indignez pas, je ne dis pas que mademoiselle Ethel m'aime d'amour, mais elle m'aime bien, j'en suis sûr. Elle sait que moi je l'aime profondément et elle ne prend plus aucun air de condescendance avec son serviteur. Elle l'a vu sous un jour différent. Elle connaît les immenses soucis de son père sur un avenir qui peut être lamentable. Elle connaît le désir ardent d'Ethel de voir sa chère fille établie. Et si cette cause d'une détermination future n'est pas très flatteuse pour moi, elle ne m'inspire aucune inquiétude, car je suis certain de la loyauté de Manette. Elle ne m'épousera pas si ses sentiments ne correspondent pas aux miens par une forte et réelle affection. Elle est à la fois femme de cœur et de raison. Et qu'attendez-vous pour vous déclarer? Le moment psychologique, madame. Il venait de décrire un état d'esprit et une situation qu'il connaissait parfaitement bien et sa confiance absolue dans le joli caractère de Manette me touchait vivement. Je ne pouvais le contredire car je partageais ses vues et il le savait bien. « Vous me soutiendrez, » me dit-il avec son assurance tranquille. « Vous oubliez Geoffroy. J'ai dû lui parler de vos ouvertures. Il s'est mis en colère. » « Vous avez eu tort de parler, madame. Mais vous, vous oubliez que, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. »« Je ne comprends pas. » »« Oh que si, vous comprenez très bien. » Il avait raison. Le mécompte de Manette, sa vie de plus en plus étroite sans monnaie, aide bien médiocre mais réelle, donnait à cet enfant un aperçu fort clair des tristes réalités que lui apporterait sans doute l'avenir. D'autre part, le fléchissement de son père l'avait fait pénétrer plus avant dans la profondeur des angoisses paternelles de Geoffroy et l'ardeur de son désir. On peut affirmer que le rubis avait singulièrement servi des intérêts de la fade. « Votre ami, me dit Manette, la veille du mariage de Cécile, a quelque peine à se décider. » « Se décider à quoi ?»« À me demander en mariage, madame. »« Quoi ? Vous parlez sans vous fâcher d'une éventualité sur laquelle une plaisanterie de ma part vous portait à m'arracher les yeux ?»« Une plaisanterie ouvre parfois des portes et tant de choses ont passé depuis, » dit-elle en souriant, sans se douter qu'elle répétait une phrase de la fade. Elle prit son petit air doctoral pour ajouter « Les hommes et les questions ont des contours qui se découvrent peu à peu. » Le raisonnement ne suffit pas. « Non, je sais, » dit-elle en changeant de ton, « mais il ne nuit pas à la sympathie qui s'éveille. Les inquiétudes de mon cher père me font tant de chagrin. Je vois que le mariage de Cécile renouvelle tous ses regrets. Hier encore, il me disait que s'il partait, j'en serais réduite à une position de dame de compagnie. Il retenait ses larmes. Que ne ferais-je pas pour le délivrer de cette hantise ?« Monsieur Lassade, Manette, dis-je sérieusement, n'est pas un homme à traiter comme un pis-aller. » « 100 fois non, mais comme un ami sincère et un appui sûr. » Je ne répondis pas parce que j'étais émue. Je trouve émouvante la jeunesse qui s'oublie pour écouter la voix austère de la raison et du dévouement. Cette jeunesse, il est vrai, puise en elle-même le ressort de sa force, la raison de ses illusions, car elle part ses actes d'un prestige, mais courageusement, elle s'est détournée des horizons qu'elle se croyait en droit d'atteindre. « Eh bien, madame !»« Eh bien, Manette, je suis convaincue que, malgré la différence d'âge, vous seriez heureuse avec un galant homme. » Ma discrétion sur la démarche ancienne de M. Lafade n'était plus nécessaire. Toutefois, je racontais seulement à Manette l'humeur terrible de son père, provoquée par mon opinion sur un mariage de raison. « Croyez-vous, dit-elle en rêvant, que cette humeur terrible persiste ?»« Et vous, Manette, que pensez-vous ? » « Je sais qu'il m'écoutera, pauvre père. Il ne mettra aucun obstacle s'il me croit satisfaite, mais ses ambitions pour moi, sans être grandes, étaient si différentes. » Je crus sage de rompre l'entretien et de la laisser à ses réflexions. La fade avait su amorcer sérieusement sa cause, qui pouvait perdre à être plaidée par un tiers. Le lendemain, il s'observa si peu, en regardant sans cesse Manette à l'église et au lunch, que son attitude fut très remarquée et que le bruit courut bientôt de son mariage avec Mademoiselle Ethel. Avait-il agi par entraînement ou en se découvrant volontairement, préparait-il le public ? Je ne le sus jamais. Mais Geoffroy, qui depuis des semaines voyait les fêtes s'avancer logiquement, me dit tout à coup le soir même que si l'avenir de sa fille se décidait à l'envers de ses propres idées, il saurait se résigner. Résignation facile à mon avis, et faut-il être si difficile avec la vie ? Mais je me gardais de répondre, car soutenir une idée acceptée avec regret, c'est risquer de soulever contre elle une nuée d'arguments. Je dormis peu dans la nuit qui suivit la journée où Manette en beauté, gaie sans effort, avait vu en même temps son désir s'accomplir et le reflet impalpable d'un rêve s'effacer pour toujours. J'eus la fantaisie de me lever pour relire les lettres dont, à l'insu de ma cousine, je conservais la copie. Elle contenait l'espoir, l'espoir frais et charmant. Je regardais avec mélancolie le chemin que nous avions pris. D'incident en incident, il conduisait directement Manette au mariage de raison. Était-ce mal ? Je ne le croyais pas, et secouant cette poussière de tristesse, je me réjouis d'une évolution dont le caractère tranquille m'étonnait moi-même. Puis, seuls, les gens qui n'ont jamais manqué de rien trouvent simples et naturelles les privations d'autrui, et j'avais trop souffert, vu trop souffrir de la question d'argent, pour ne pas apprécier l'aisance et la sécurité qu'assurerait à Manette son mariage avec un homme dont les rares qualités garantissaient une existence paisible. Je savais que, dans ces questions délicates et complexes, rien n'est absolu, que tout se discute, que les conflits d'impressions et de sentiments qui naissent pour une femme d'une situation si nouvelle sont l'imprévu, mais je savais aussi que Manette, avec son sens du devoir, avec son caractère heureux et droit, n'amoindrirait pas un bonheur raisonnable par des regrets inutiles. Elle jouissait extraordinairement, sincèrement, des fêtes réalisées. Elle les déclarait pleines de saveur en parlant du rubis qui, désastre pour elle, était le bonheur pour Kerdulen. Quel engrenage curieux, me disait-elle. Quel présage différent mes lettres emportaient au Maroc. Que de choses amusantes et savoureuses dans la vie, madame. Que de détours et aussi de retours vers le possible. Cependant, le silence de la fade commençait à m'impatienter. Je l'attribuais, en dépit de son assurance, à un accès de timidité assez compréhensible, à moins que ce ne fût une tactique habile, car l'esprit des habitants du Bourdon, parvenu au fameux point psychologique, ne pouvait plus que désirer une solution. Manette évitait les allusions, et après nos grandes agitations, nous tombions dans une sorte d'atonie, dont M. Lafade nous tira enfin brusquement. Je l'avais appelé sous prétexte de m'apporter des greffes de rosier et bien décidé à le pousser dans ses retranchements. Mais je conservais ma réserve ordinaire, la conversation traînait. Il se disposait à me quitter lorsque Manette entra. Prenant soudainement sa résolution, il lui saisit la main qu'il tint étroitement serrée sans prononcer un traître mot. Cette façon de parler, fort éloquente à sa manière et qui indiquait beaucoup d'émotion, attendrit ma jeune cousine et, en même temps, la fit sourire. « Me tiendrez-vous longtemps prisonnière ? » dit-elle en riant. « Toujours, si vous le voulez bien. Consentez, Manette, soyez ma femme tendrement aimée. De longue date, vous me comprenez, vous connaissez mes sentiments. »« Vous avez, dit-elle, une manière originale de les déclarer, mais c'est à mon père de parler. » »« Il a parlé. » Je l'ai vu longuement hier. Il ne veut ni vous influencer, ni toucher à votre liberté. Ce que vous déciderez sera bien. » Manette, embarrassée, demeurait muette. « Je ne puis répondre, dit-elle en hésitant, sans vous avoir fait une confession. » Ce début m'inquiéta. Nous avions eu une légère discussion sur des idées que sa loyauté défendait âprement. J'avais vainement prêché la prudence, la sagesse qui consistait à garder pour soi ce que l'honneur n'obligeait pas à révéler. Mais j'oubliais la finesse, la clairvoyance et l'éducation parfaite de M. Lafade. « Une confession, répéta-t-il, elle serait toute à votre honneur et je n'en ai nul besoin. »« Laissez-moi parler, j'aurai sans cela des pensées pénibles. » « Je ne m'oppose à rien si vous voyez dans cette prétendue confession une satisfaction pour vous. » Il s'assit près d'elle et attendit, mais la pauvre Manette perdait sa bravoure et ne savait plus comment s'y prendre. « Si nous laissions cela, dit-il en souriant. « Non, non, je commence. Vous connaissez ma correspondance de marraine avec M. Kerdulen. Tout le monde la connaît. Elle a donné lieu à des interprétations. » Et puis, je crois... Inutile d'aller plus loin, Manette. Les souhaits que vous aviez alors formés, du moins je l'ai toujours pensé, ne peuvent me porter ombrage. Passons, passons, chère Manette. Encouragée, mais plus rouge, plus émue, elle reprit. Vous vous rappelez les lettres de la princesse X? Oui, on en a assez parlé. Eh bien, je dois vous apprendre... Je sais, votre père les avait négociés, c'était son droit. » Les jolis yeux francs, étonnés, posés sur ceux de M. Lafade, la divertirent et la rendaient bien séduisante. « Mon père vous a dit ?»« Nullement, j'ai deviné. » »« Ah, et vous jugez qu'il était dans son droit. Mais moi, qui juge autrement, je ne devais pas laisser ma main dans la vôtre sans vous mettre au courant d'une circonstance qui, apprise plus tard, pouvait vous déplaire violemment. » »« Vous êtes à la droiture même, Manette. » « Mon père aussi, » dit-elle vivement. « Votre père tout autant, je le sais bien. Je ne connais pas d'homme plus estimable. » Il reprit la main de ma cousine et la porta à ses lèvres. « Est-ce tout ?»« Non, j'ai refusé de profiter du marché. J'étais sans rien, je suis toujours sans rien. » « Sans rien, » dit-il avec émotion, « je suis d'un avis si différent, Manette très chère. Et comment avez-vous disposé de cet argent ?» Manette me regarda, ne sachant comment répondre. « Ne le lui demandez pas, » dis-je, « elle croirait avec raison commettre une indiscrétion. »« Comment ? Un secret déjà entre nous ? J'en serais jaloux, Manette. » Elle prit au sérieux la réponse de Lafade et demeura interdite. « Ah, je vous tiens, » dit-il en riant. « Rassurez-vous, je sais sans que vous parliez. Votre secret et la dignité de Kerdulen sont en sûreté avec moi. »« Mais vous savez donc tout ?» s'écria-t-elle en se levant avec vivacité. « C'est effrayant. Et quand je serai mariée, que deviendrai-je »« Vous n'aurez rien à cacher, chère Manette, mais je vous aime trop, croyez-le bien, pour ne pas pénétrer vos moindres pensées et ne point partager vos moindres soucis. » Il parlait excellemment et il devait agir en conséquence. Voici 2 années que je la vois heureuse et jeune mère enchantée. 2 ans que Geoffroy respire librement et travaille sans l'inquiétude amère qui empoisonnait sa vie. Pour moi qui ne vis plus que par mes pensées, je songe souvent à l'assimilation qui se fait dans l'esprit entre les beautés extérieures et les délicatesses de l'âme. Les unes deviennent la corrélation des autres et je ne vois plus les longues branches chargées de roses démodées, les fleurs charmantes d'autrefois, je ne respire plus l'âcre parfum des romarins sans revivre la page vécue de la délicatesse extrême et de la raison écoutée. Jean de la Brette.